Je vais ce soir vous faire désirer et aimer la République.
La bête de l'événement est là.
La République, c'est moi!
Je vous demande de vous arrêter.
Non, il ne faut pas tomber dans un extrémisme extrême.
Non, je le dis avec courtoisie, mais...
Oui. Avec courtoisie, bien sûr.
Ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpin.
Il y a des gens qui n'ont pas envie d'être métissés, monsieur Attali, excusez-les.
Jeanne, au secours!
Voilà, bah c'était un peu l'envie de vomir sur ces ordures. Enfin, pardon.
Vous êtes sur Radio Courtoisie.
Vous êtes sur Radio Courtoisie, chers amis du lundi. Hardy, bonsoir et bienvenue dans une nouvelle édition de Restons Courtois, l'émission de débat en partenariat avec nos amis de l'Incorrect, de Valeurs Actuelles, du Monde Moderne et de Boulevard Voltaire. Ce soir, nous avons rendez-vous avec le député de l'Aisne, Identité, Liberté, Apparenté, RN, Eddy Casterman, qui a dénoncé la semaine dernière l'immonde spectacle pédophile promu par l'association Fiers et Queer. Et avec lui, nous reviendrons sur ces dérives un peu sidérantes au moment où le pays est encore sous le choc du viol et du meurtre de la petite Liana, 11 ans, par un criminel pédophile et dont nous avions beaucoup parlé la semaine dernière. Alors nous balayerons également l'actualité d'Eddy Casterman, son actualité parlementaire et puis notamment son passage avec Marion Maréchal au salon Game Fair en bon français en Sologne. Et un salon donc qui est devenu le rendez-vous incontournable des passionnés de la chasse. Donc avec lui, nous parlerons du rôle de la chasse, mais aussi de son goût pour la chasse et de tout ce que l'on peut penser de cette pratique ancestrale. Alors, rendez-vous de la réinformation ensuite avec Kevin Nader, l'élu municipal RN d'Ivry-sur-Seine, donc qui lui a interrompu jeudi 11 juin le conseil municipal en sortant un crucifix et en récitant donc un « Je vous salue Marie ». Alors il protestait contre le rejet par le maire communiste de sa proposition d'amendement à un règlement intérieur donc à la mairie qui visait à interdire le port ostentatoire je cite, de signes religieux, notamment durant le conseil municipal. Proposition qui s'est écrabouillée face à un refus catégorique et haineux du maire communiste, et donc l'élu RN donc, prenait acte du fait qu'un élu soi-disant laïcard refuse l'application de la laïcité la plus élémentaire dans sa mairie. Alors, a-t-il eu raison ou tort sur la forme? Est-ce qu'il a injustement provoqué ce maire communiste? Est-ce qu'il a eu tort d'afficher son catholicisme? Et comment expliquer surtout, évidemment, l'attitude du maire communiste devant quelque chose qui ne s'apparentait pas à une provocation quand même extrêmement grave, et surtout qui semblait en cohérence avec le refus d'interdire les signes ostentatoires religieux. Alors, la Suisse, ensuite, nous partons à l'étranger, mais pas trop loin. les Suisses... les Suisses ont rejeté ce dimanche à 54%. L'initiative populaire anti-immigration qui a été portée par l'Union démocratique du centre, donc l'UDC, qui est la droite conservatrice en Suisse, et qui est aussi le premier parti du pays, accessoirement. Alors c'est intéressant parce que ce texte visait donc à limiter l'immigration pour empêcher que la population permanente dépasse les 10 millions d'habitants d'ici 2050, sachant que le pays en compte maintenant 9 millions et demi, et dont un quart d'étrangers. Et bizarrement, les Suisses ont finalement choisi l'ouverture à l'autre. Mais pendant longtemps, les sondages avaient annoncé la victoire du oui, donc la victoire de l'UDC, avant une offensive médiatique et politique tout à fait massive. Alors voilà, nous essaierons de réfléchir sur les explications de ce basculement, quelles ont été les causes de ce basculement, et puis quel sera l'avenir de la Suisse maintenant qu'ils ont choisi l'ouverture. Iran, ensuite, eux, ils n'ont pas choisi l'ouverture. Un accord donc, a été claironné par Donald Trump dimanche soir et il devrait être signé vendredi à Genève entre les États-Unis et l'Iran si Benjamin Netanyahou ne s'efforce pas de sortir le projet. Et donc, cet accord permet notamment la réouverture du détroit d'Ormuz, qui était le principal objectif de l'offensive américano-israélienne, on s'en souvient.
Vous plaisantez, là.
Oui, Non, puisque pour ceux qui ne le sauraient pas, ce détroit était déjà bien ouvert, tranquille et circulé, et laissé circuler tout le monde dans la paix et la joie. Mais comme les Américains se félicitent de cette avancée majeure, voilà, c'est En tout cas, le vice-président donc américain Vance devrait signer donc cet accord à Genève. Et il a annoncé que, grâce à cela, le Moyen-Orient en serait transformé pour les 50 prochaines années, où l'on voit qu'il est moins ambitieux que Trump, puisque Trump avait parlé, lui, de paix éternelle. Et donc, l'Iran, lui, de son côté, proclame que les États-Unis et Israël ont été humiliés et qu'ils ont dû se résoudre à admettre leur défaite. Alors voilà, ça sera l'objet d'un débat. Quelle est la réalité? Qu'est-ce que nous en pensons, surtout? Et puis, on notera également que cette avancée majeur, hein, arrive après avoir été annoncé, on a compté, plus de 32 fois par Donald Trump en 3 mois, ce qui est quand même assez considérable. Et alors, on ne peut pas reprocher à Trump sa persévérance. Néanmoins, on peut se demander si sa crédibilité a été entamée. Et pourra-t-il se relever surtout de cette aventure militaire et diplomatique? Est-ce qu'il pourra emporter les élections partielles? Et le Proche-Orient sera-t-il vraiment en paix pour 50 ans ou pour l'éternité? Voilà, ben nos chroniqueurs vont vous répondre dans un instant, et puis nous terminerons par les émeutes donc, qui ont secoué Belfast, capitale de l'Irlande du Nord, après la tentative de meurtre donc, d'un Irlandais par un immigré africain. Et la violence donc, et l'horreur des images ont indigné la population au point de déclencher des réactions violentes et particulièrement structurées. D'ailleurs, c'était peut-être ce qui m'a le plus intéressé dans cette affaire. On en parlait avec Richard de Sèze hors antenne. C'était étonnant d'organisation. Et toute violence, donc évidemment, est condamnable, mais on peut tout de même essayer de comprendre la réaction des autochtones face à une immigration dont beaucoup d'éléments sont jugés dangereux et facteurs d'insécurité, dans un pays surtout où l'immigration est très très faible. Et c'est intéressant de voir justement la violence de cette réaction. Est-ce qu'il y a une corrélation? D'ailleurs, c'est aussi une question qu'on pourra se poser. Et voilà. Et puis surtout, quel impact ces émeutes auront-elles sur les immigrés? On pourra répondre à toutes ces questions avec le quarteron de la réinformation, qui se réduit à bien peu de choses aujourd'hui, puisque je n'ai avec moi, hormis monsieur le député Eddie Casterman, que, mais c'est déjà beaucoup, que Richard de Sèze, directeur de la rédaction de Radio Courtoisie, et Arthur de Vatrigan, directeur de l'Incorrect. Tous les Bonjour. Autres se sont fait porter pâle, pour de plus ou moins bonnes raisons.
Mais on est quand même les meilleurs en fait.
Mais en fait, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Donc,
comme on va pas arrêter de jouer les faux modestes, on le sait, les auditeurs le savent, les meilleurs sont là.
Voilà. Et c'est ce qui compte. Allez, on regrette quand même tous nos camarades. On remercie Axel d'être avec nous pour 2 heures aux commandes. Et avant tout, donc, je tiens à souligner, avant de rentrer dans le vif du sujet, donc, que, chers auditeurs, vous pouvez envoyer vos questions, vos remarques au député Eddie Casterman donc, pendant 1 heure. En téléphonant au 01 46 51 00 85 ou en écrivant un courriel à courtoisie@rc.fr. Alors, nous attaquons tout de suite notre sujet, et nous n'attaquons pas le député, puisqu'en plus il est chasseur, donc ça serait dangereux. Donc nous avons rendez-vous aujourd'hui avec Eddie Casterman, donc 29 ans,
bonjour,
et déjà député.
Oui, depuis 2 ans maintenant.
Donc vous êtes au parti Identité et Liberté de Marion Maréchal.
Tout à fait.
Vous êtes apparenté RN à l'Assemblée nationale. Et donc vous êtes aussi celui qui a révélé cette immonde chanson intitulée, j'ose à peine dire le titre, tellement c'est immonde, « J'aime en secret tripoter mon fils ». C'est quand même
ouais, tout à
assez
fait.
Phénoménal. Et qui a été, donc, vous pouvez peut-être nous raconter comment ça s'est passé, ce qui...
Oui, ouais, tout à fait. Alors la chanson, elle a existé déjà, mais moi, ce que j'ai pu révéler au travers d'un constat abominable qu'on a pu faire la semaine dernière à Saint-Quentin, c'est qu'il y a un spectacle organisé sur le parvis de la basilique, vraiment sur le parking devant, en provocation supplémentaire, de drag queen qui ont organisé en effet cette scène qui a été qui moi m'a interpellé à la fois en tant que député mais aussi et surtout en tant que père de famille. C'est une scène tout à fait choquante, de provocation extrême, où on a vu en effet des hommes déguisés en femmes, le ouais. principe des drag queens, et en fait proférer des
enfin, propos... pas n'importe quelle femme, elle ouais, ressemble pas à ma mère, quoi, par
oui,
exemple.
Oui, non, ni à ma femme, et heureusement, mais en tout cas, qui, voilà, en plus, dans une tenue tout à fait vulgaire, provocante ouais. ont prononcé des paroles, entre autres celles que vous avez prononcées assez dramatique de J'aime en secret, tripoter mon fils.
Rien de le prononcer, plus, ça fait froid dans le dos.
Exactement, allié en plus avec des gestes obscènes. Ouais. Je vous passe évidemment le détail de ces gestes.
Et devant une église, je crois.
Devant l'église, devant la basilique, comme je vous le disais. Et surtout, et le plus dramatique, devant un parterre d'enfants. Parce qu'en fait, le public était ouvert, il n'y avait aucune annonce qui avait été faite, aucun avertissement qui avait été fait au public qui était sur place. Donc, c'est vraiment au cœur de la ville de Saint-Quentin. Et donc, on a eu ces gestes obscènes devant un public non averti et surtout devant des enfants qui assistaient nombreux. Et d'ailleurs, j'ai publié la photo qui démontre que ces enfants étaient présents en nombre. Et donc, en proférant ces paroles, évidemment, ça a pu choquer à juste titre. D'autant plus que l'association et les drag queens qui ont fait ce spectacle se cachent derrière le second degré.
Oui, ils parlent de blagounette et d'humour.
Ouais. Exactement, en reprenant les paroles d'une chanson qui est d'ailleurs tout à fait provocante à l'écart des pères de famille qui seraient patriotes, qui seraient bien sous tout rapport, mais qui aiment justement en secret tripoter leur fils, évidemment en incriminant derrière tout ça toute la communauté catholique,
et hétéronormée,
le mâle blanc traditionnel, et puis évidemment catholique, et en suggérant aussi par derrière que le catholique de base aime tripoter les petits-enfants, comme le curé le fait, etc. Donc c'est vraiment là, on a tout ce qu'il faut. On a cette association très politique, en plus, puisque couplée à ces gestes, à ces paroles, ce qui a fait que j'ai justement interpellé le procureur de la République au travers d'un article 40 sur le sujet. Couplé à cela, il y avait
Article 40 pour les auditeurs de Radio Courtoisie qui ne connaissent pas le droit.
L'article 40 du Code de procédure pénale qui précise que quand quelqu'un qui est investi d'une mission publique a connaissance d'un délit ou d'une faute grave, se doit d'avertir le procureur de la République pour que lui, après, puisse instruire et voir s'il y a lieu d'ouvrir une procédure judiciaire. Et donc, c'est pour ça que j'ai rédigé l'article 40 que j'ai interpellé procureur de la République, mais pas sur ce seul fondement, puisque cette association, et d'ailleurs on y reviendra après sur cette association qui est quand même très intéressante, a aussi une vocation politique, et d'ailleurs on voit sur scène aussi des incitations à la violence, des incitations à la haine à l'égard de personnalités politiques. On voit des effigies d'Éric Zemmour déchirées, on voit des bulletins de vote de Marine Le Pen aussi écrasés. Et donc, voilà, tout ça est fait dans cette espèce d'offensive, en effet, woke, et à l'égard à la fois d'une communauté qui est la communauté catholique, à l'égard évidemment de personnalités politiques, et puis surtout aux yeux de familles qui étaient présentes avec des gestes et des propos obscènes.
Alors je cite quand même les propos, je ne sais pas si vous les avez. Alors la chanson, moi je ne l'ai pas écoutée, hein, faut être honnête, je l'ai lue sur Internet.
Vous n'aviez pas à vous infliger ça.
Néanmoins, voilà, ils écrivent « J'aime que tout soit bien rangé ». Déjà là, on sent, parce que c'est une chanson parodique sur des gens conservateurs. Hein. Ouais, « J'aime que tout soit bien rangé », moi déjà là, je me sens concerné. J'aime que ma famille m'obéisse. J'aime la chasse et mes copains bourrés. Là, j'ai pensé à vous. Mais et
puis, pour la chasse ou les copains bourrés.
Oh, je ne sais pas. Vous allez nous préciser ça. Et avec donc le passage, j'aime aussi en secret tripoter mon fils. Et en concluant, j'aime aussi le Seigneur car il pardonnera mes péchés. Voilà. Et alors, j'ai trouvé intéressant la réponse de l'association donc Fier et Queer de Saint-Quentin qui vous a répondu. Vertement, en disant qu'ils étaient, enfin que cette association était atterrée avec un E majuscule avant entre le E et le S, je vous laisse imaginer l'orthographe, et en disant de vous, je ne suis pas sûr que ces gens-là soient saints d'esprit. Ouais. Je me suis demandé si ça vous rassurait.
Venant d'eux, ça me rassure totalement. Mais pour vraiment revenir sur le sujet et être tout à fait sérieux par rapport à ça, parce que c'est quand même un fait dramatique. Moi je pense que c'est justement un sujet qui peut pas souffrir d'ambiguïté, et en fait que ce soit au premier ou au second degré, ça n'a pas lieu d'être sur la place publique et devant des enfants, en fait, parce que dans un contexte général qui arrive juste après la mort de Liana, à un moment où on a un scandale du périscolaire qui est énorme et une affaire qui éclate au niveau à la mairie de Paris, mais qui aussi existe sur l'ensemble du territoire français avec l'aide sociale à l'enfance, etc., au moment où on a 70 000 plaintes sur le sujet de la pédophilie, de la pédocriminalité qui sont en attente d'instruction avec des violences sexuelles sur mineurs, moi je pense que on ne doit pas laisser passer et on ne peut pas en rire. Et je pense que l'indécence et l'obscénité qui ont eu lieu à ce moment-là ne peuvent être qualifiées, qui peuvent être qualifiées de corruption de mineurs, puisque c'est l'objet et c'est le fondement sur lequel d'ailleurs j'ai rédigé mon article 40, d'incitation à la pédophilie et, si le second degré était retenu, en tout cas de corruption de mineurs, puisque ça s'est passé dans un public de mineurs, je considère que tout cela ne peut pas s'apparenter à de la création artistique, et cette association ne peut pas se cacher derrière, en effet, ce paravent de la création artistique, alors même que ses propos sont absolument ignobles. D'autant plus que cette association, donc qui s'appelle, comme vous l'avez rappelé, Fier et queer, qui n'est pas à son premier à son coup d'essai.
Pardonnez-moi, je vous coupe pour expliquer aux auditeurs, encore une fois, qui ne parlent pas tous le langage LGBT, ce que veut dire queer. Donc queer, initialement, donc c'est un mot qui veut dire bizarre, inadapté, et qui s'adresse désormais, enfin qui est brandi, revendiqué comme un ouais. titre de gloire par les personnes LGBT.
C'est leur étendard, mais voilà. Mais en tout cas, oui, le spectacle qu'ils ont fait était tout à fait queer, dans bizarre. Le sens où il était bizarre et inadapté au public auquel il était confronté. Et cette association, et donc ça c'est aussi le comble, puisque quand on creuse, on trouve des choses qui sont parfois assez étonnantes, cette association est financée par l'argent public, par l'argent du contribuable, sous plusieurs formes, à la fois, par exemple, le Fonds de développement à la vie associative du département, au niveau du département de l'Aisne, et par la Caisse primaire d'assurance maladie,
au titre
du programme EVARS, donc ce programme assez délirant d'éducation à la vie affective, relationnelle, sexuelle, qui fait que des associations comme celle-ci peuvent intervenir dans l'école de vos enfants, en primaire, au collège et au lycée, pour répandre l'idéologie woke, théorie du genre, etc. Et donc, cette association intervient dans...
Et donc, ils ont un agrément du rectorat.
Exactement. Et c'est pour ça que je ne me suis pas contenté de rédiger cet article 40. J'ai aussi écrit au ministre de l'Éducation nationale pour que l'agrément de cette association soit évidemment retiré et qu'on protège nos enfants dans nos écoles aussi du département, en tout cas dans l'Aisne, puisque c'est mon département en tant que député. Parce que je considère que les drag queens n'ont rien à faire ni sur les parvis d'une basilique, ni dans les écoles de la République.
C'était ma question suivante. Est-ce que vous pensez pouvoir obtenir que la mairie, peut-être, attribue un autre espace, parce que j'imagine qu'elle ne, leur...
Alors, ça avait
elle
été
ne les empêchera
sollicité.
Pas de se manifester, mais est-ce que ça peut être ailleurs? Parce que j'ai un peu lu sur le sujet, mais il y a des fidèles, notamment, qui se plaignent en pleine messe, par exemple, d'être perturbés par la musique,
tout
les hurlements.
C'est ce qui a été le cas à ce moment-là, mais je pense que... L'endroit était évidemment délibérément choisi,
ah oui
par en tout cas l'association, qui, elle, était provocatrice. Et la mairie n'a pas répondu aux sollicitations, justement, des paroissiens qui, eux, demandaient simplement que ce spectacle, en tout cas que cette manifestation, puisque ça s'ancrait dans le cadre d'une manifestation plus large de marche des fiertés, de Gay Pride, en fait, puisse se faire à un autre endroit, peut-être plus approprié à cet événement. Et la mairie n'a jamais daigné répondre. Je vous rappelle quand même que la mairie de Saint-Quentin est dirigée par des LR, par les LR de Xavier Bertrand, et que ces gens...
C'est bien de le souligner.
Voilà, okay, c'est pas forcément très commun partagé chez tous les républicains, puisque certains sont peut-être un peu plus réglo sur le sujet, mais en tout cas, eux ont laissé courir tout cela, et ont même participé à l'organisation logistique de l'événement, et je crois savoir que Claire Géronimi, qui est élue à la mairie de Saint-Quentin, sous la bannière de la Coalition Nationale, donc UDR en l'occurrence, mais avec le Rassemblement National et Identité Liberté, parti que je représente, a justement interrogé Madame le maire de Saint-Quentin pour que des comptes soient rendus sur le financement qu'elle pourrait accorder à cette association, et on attend toujours la réponse.
Okay. Est-ce que vous avez contacté alors le rectorat également pour la question de l'agrément? Parce que c'est quand même
étrange. Alors j'ai écrit directement au ministre de l'Éducation Nationale pour demander justement ce qu'il en était et pour solliciter le retrait de l'agrément à cette association qui s'est déjà rendue coupable de plusieurs méfaits, et celui-ci sur la place publique est peut-être la cerise qui couronne le gâteau. Quoi.
Alors, est-ce que vous pensez, est-ce que vous avez connaissance de cas où ce genre de demande est efficace et suivi des faits, ou est-ce que vous le faites par principe, parce qu'il faut le faire, mais que vous pensez que le gouvernement ne vous suivra pas?
Alors, sur d'autres sujets, en ayant écrit au gouvernement, on a pu déjà avoir des réponses, et parfois positives. Positive, je pense par exemple à Anne Sicard, ma collègue députée, qui, au travers d'une interpellation de la ministre de la Culture à l'époque, a réussi à faire en sorte de réintégrer le Puy du Fou, ce qui était un scandale, qui avait été sorti du Pass Culture. Donc, c'est-à-dire qu'on pouvait aller à la fête de l'humanité avec le Pass Culture, on pouvait assister à des spectacles délirants, mais on ne pouvait pas, en effet, accéder au Puy du Fou. Et donc, ce genre d'interpellation peuvent payer. Et d'ailleurs, c'est notre responsabilité de parlementaire que de devoir interpeller les ministres qui sont responsables devant le Parlement. Et à ce titre-là, bah, évidemment, faire en sorte que, en tout cas, une réponse soit apportée. La décision politique d'un gouvernement macroniste, on n'en attend pas grand-chose, malheureusement. On attendra, nous, d'être aux responsabilités l'année prochaine avec la coalition nationale, le RN, l'UDR et Identité et Liberté pour pouvoir, justement, de ce point de vue-là, faire changer les choses.
Alors, vous êtes également, si je ne me trompe pas, à la commission des finances de l'Assemblée nationale. Donc, vous êtes bien placé pour contester les subventions dont vit une association comme Fier et Queer. Là, quels sont les comment dirais-je, peut-être pas les recours, parce qu'il n'y a pas encore eu de décision, mais quelle est la suite logique à donner pour qu'éventuellement il n'ait plus cette subvention ?
Bah après, les subventions sont distribuées à la fois, là on le voit typiquement
par une mairie,
par la caisse primaire d'assurance maladie, oui. Donc c'est-à-dire par la sécurité sociale et donc l'État. Donc de ce point de vue-là, il y a tout à fait un ménage à opérer sur le versement d'argent public au titre de programmes prévus par l'État, tels que le programme EVARS. Donc peut-être qu'il faut supprimer aussi ce genre de programme pour pouvoir faire le ménage et opérer une bonne gestion du denier public pour pas que ça finance aussi de telles dérives. Et puis après, c'est au niveau aussi des collectivités que ça se joue, puisque ce genre d'association est financé par plusieurs strates de collectivités territoriales. Et donc, c'est là-dessus aussi qu'il faut opérer un contrôle. Les oppositions auxquelles nous faisons partie dans certains conseils départementaux ou régionaux le font déjà, mais il faudra surtout...
Oui, il faut réussir soit à tirer la sonnette d'alarme pour sensibiliser une majorité,
exactement,
soit soi-même obtenir une majorité.
Exactement. Voilà.
Mais il y avait eu, un phénomène depuis quelques années qui se développe. Alors, c'est pas encore à l'échelle américaine où c'est beaucoup plus important, mais en France, c'est toujours les drag queens qui organisent des ateliers ou des ateliers lecture ou des ateliers de démonstration
dans les écoles,
moins étonnantes, dans les bibliothèques municipales.
Ouais.
Et alors ça, il y en a partout. Il y en a à Lyon, il y en a à Paris, à Lille Bouchard, il y en a partout.
Lyon-Paris, c'est pas très étonnant.
Lyon-Paris, c'est pas étonnant, mais en fait, le problème, ça se développe de plus en plus avec toujours les centres LGBTQX et toutes les consonnes que vous ajoutez, qui sont référencées dans toutes les villes et généralement, ça part de là et ensuite organise soit des lectures, soit des ateliers, par exemple, comment essayer de marcher avec des talons, des choses comme ça. Et il y en a une association qui s'appelle, donc un collectif plutôt, qui s'appelle Les Paillettes, qui avait expliqué plusieurs fois pourquoi il le faisait. Et là, je l'ai cité parce que c'est assez instructif. Nous racontons des histoires inclusives, des histoires bizarres à des enfants. Des princesses peuvent terroriser des princes charmants qui envahissent les forêts pour rouler des galoches à des princesses non consentantes. Le principe est d'émanciper les enfants à tout cela. Donc, on voit quand même une offensive idéologique de toute la mouvance LGBT et qui, alors c'est toujours assez fascinant, c'est que ils sont attirés par les enfants parce que c'est là où ils peuvent, selon leurs termes, déconstruire et donc façonner, telle espèce de vieille moule industrielle, des vieux moules industriels, pardon, des enfants. Mais c'est vraiment leur logique, c'est ça. C'est de dire, on va vous déconstruire et vous reformater. Donc il y a les écoles, et depuis que Vincent Payon est passé ministre de l'Éducation nationale, il a donné des agréments à un nombre d'associations qui ne devraient même pas foutre un doigt de pied ou un orteil à l'école. Mais il y a les bibliothèques municipales. Et donc en fait, on voit que là où les jeunes sont, les enfants sont, la jeunesse est, il y a un entrisme de l'idéologie LGBT. Donc la question, c'est d'un point de vue politique, comment on peut analyser cette pieuvre qui se met en place, qui est des tentaculaires, parce que alors, même s'ils ne sont pas encore très nombreux, ils se mettent en place partout. Comment on peut analyser cela et comment on peut lutter contre ça concrètement, sachant qu'en effet, vous l'avez dit, dans des villes comme Paris ou des villes comme Lyon, c'est des villes ultra inclusives avec tout le sens péjoratif et négatif que je mets derrière ce mot, et donc forcément qui va s'opposer à toute vision de politique nationale.
Oui, tout à fait. Alors, il y a à la fois les deux sujets, en effet, du soutien national, vous l'avez rappelé au travers des dernières... pratiques politiques au niveau national qui ont été justement menées en faveur de l'intégration de ces associations dans les salles de classe, dans les médiathèques, bibliothèques municipales, etc. Et donc ça répond à des choix politiques. Mmh. Les choix politiques se déclinent en effet par rapport aux agréments qui sont laissés et octroyés à ces associations qui leur laissent libre cours d'exercer et qui leur donne plein droit d'aller exercer auprès de nos enfants. Donc de ce point de vue-là, déjà, c'est la fin et la suppression de ces agréments qu'il faudrait acter. Le deuxième sujet au niveau national, c'est évidemment les financements. Les financements au travers de programmes structurants tels que le programme EVARS, mais il y en a certainement d'autres aussi, et sur d'autres sujets qui devraient être revus. Et puis après, au niveau tout à fait local, bah évidemment, c'est le changement politique et de majorité politique qui peut faire en sorte qu'on inverse les choses. Quand on laisse en effet la main libre à l'extrême gauche woke, l'extrême gauche progressiste, il ne faut pas s'étonner derrière qu'en effet, on ait ce genre de dérive qui s'opère parce que c'est leur agenda politique et ils veulent évidemment l'imposer puisque eux, en effet, ils sont dans cet objectif de déconstruction. Hein, c'est ce que nous rappelle Sandrine Rousseau matin, midi et soir, déconstruire. Et en effet, du coup, ils s'attaquent à nos enfants dès la racine puisqu'ils veulent justement déraciner, déconstruire les nouvelles générations pour opérer un changement et une bascule de société à laquelle nous nous opposons.
Alors, je ne connais pas le droit en cette matière, mais est-ce que... il existe des mesures, ou est-ce qu'il faut les créer, qui peuvent pénaliser, quand vous parlez d'apologie de la pédophilie, par exemple, est-ce que c'est déjà puni par la loi ou pas, et comment on détermine ce qu'est l'apologie ou pas
Après, ce sera au juge de le déterminer s'ils se sont rendus coupables ou pas d'incitation à la pédophilie ou de corruption de mineurs, mais en effet, c'est fondé juridiquement, et l'article 40 qui a été rédigé se base évidemment... sur les textes en vigueur, et en effet, on peut être condamné à ce titre-là.
D'accord. Alors, il faudrait, je sais pas, vous les connaissez particulièrement, ces textes enfin, c'est
alors, la référence exacte, je l'ai pas en tête, je suis pas un parfait juriste, mais en tout cas, je pourrais vous envoyer le détail de l'article 40 qui a été rédigé, si vous voulez, le fondement exact.
D'accord.
Dans la manière dont l'association vous a répondu en expliquant que c'était vous qui étiez demeuré et qui n'était pas saint d'esprit, vous sentiez qu'ils étaient choqués du fait d'avoir été pris la main dans le sac ou au contraire ravis que leur provocation ait produit les effets politiques qu'ils attendaient d'une certaine manière?
C'est-à-dire que je pense qu'en réalité ils sont ravis qu'on parle d'eux, mais en fait ils sont dans une posture de victimisation. C'est-à-dire que moi, je suis finalement celui qu'il dénonce dans cette chanson, c'est-à-dire ce mâle blanc réactionnaire qui refuse la déconstruction de ses enfants. Et donc, en fait, ils s'en servent comme un message politique et ils se victimisent en disant « Vous voyez, ces gens-là sont des homophobes, des transphobes, toute la déclinaison de phobes. »
Alors que c'est faux, enfin, il faut quand même le préciser, ce n'est pas du tout
ça. Oui, tout à fait, moi j'interviens pas.
La pédophilie.
J'interviens pas dans une optique évidemment d'homophobie, bien au contraire. Justement, moi j'interviens pour défendre l'innocence de nos enfants. En tant que père de famille, c'est évidemment pour moi quelque chose qui m'a évidemment interpellé, pour la décence publique, et pour faire en sorte qu'en effet, ce genre de propos, à la fois d'incitation à la pédophilie, ne puisse pas se passer dans les rues et sur le domaine public, même tout court d'ailleurs, puisque ce n'est pas le cas, qu'on n'ait pas affaire à cette corruption de mineurs avec des mineurs qui assistent à ce genre de scène, et que des associations comme celle-là n'interviennent pas dans les classes de nos enfants.
Mais c'est même étonnant que la direction de ces associations, peut-être, ou les partis qui les soutiennent, n'interviennent pas, parce que là, quand même, le fait de se dissimuler derrière l'accusation d'homophobie pour promouvoir des choses aussi dégueulasses devrait quand même alerter, même à gauche, où on peut être de gauche et aimer ses enfants de manière saine.
Bien sûr.
Et trouver que c'est pas parce qu'on dénonce la pédophilie qu'on est homophobe, et c'est pas parce que on est LGBT trans ou je ne sais quoi, qu'on a le droit, au-delà, simplement parce qu'on dit non à l'homophobie, de prôner des choses aussi immondes et dangereuses, parce qu'on parle, encore une fois, on parle de vraies choses, c'est-à-dire que le viol et le meurtre d'une enfant de 11 ans a eu lieu pour de vrai, quoi. C'est-à-dire que ce n'est pas une parodie, ce n'est pas une chanson rigolote. Et néanmoins, si on crée un contexte qui relativise ces actes, ça peut être extrêmement grave. Et même si on est de gauche,
tout à fait. C'est pour ça qu'on ne peut pas laisser place au second degré, même dans ce cas-là, puisque c'est comme ça qu'ils se défendent aussi.
Et même si on est LGBT, c'est-à-dire, je ne comprends pas pourquoi les LGBT font ça.
C'est une minorité très militante qui veut justement faire avancer cet agenda politique de déconstruction et par là même de lutte aussi en plus contre l'extrême droite. Etc. On a le droit à tout ça, mais en effet, une grande partie des homosexuels, et d'ailleurs c'est la semaine dernière, j'en discutais justement sur le sujet avec quelqu'un qui m'a dit « moi je suis homosexuel, mais je me reconnais absolument pas dans ce genre de démarche, etc. » Et bien heureusement, et tout à fait légitimement. Donc en fait c'est juste une petite minorité très active voilà, qui fait avancer son agenda politique, qui est dans la provocation, qui est dans la déstructuration de la société. Et donc, à titre politique, ces gens-là se méritent d'être combattus et surtout ne pas faire d'amalgame entre les uns et les autres.
Ouais. Ouais. Ils méritent surtout d'être combattus par leur propre camp, parce qu'encore une fois, ouais, quand on
mais
voit...
c'est vrai qu'il y a une démission de la gauche ouais. là-dessus, qui a peur elle-même d'être taxée. Vous ouais. savez, c'est la révolution qui déborde ses enfants. Et donc, en effet, ces gens-là crantent, vont toujours plus loin. Et en fait, la gauche se refuse de contredire, en effet, les plus progressistes d'entre eux. Et donc, on en arrive à ces conclusions-là, où en effet, les franges les plus rationnelles de la gauche ont complètement disparu. Et
ou démissionné,
et ne se prononcent plus sur ce genre de sujet, par crainte des accusations qu'on va leur porter. Mais heureusement, une certaine droite est là et révèle ce genre de scandale.
Mais qui est quand même assez rare. Parce que vous avez raison sur la gauche qui a démissionné, parce qu'en effet c'est leur logiciel idéologique, donc ça va être compliqué de se remettre en question. Mais dans la droite ou le camp national élargi, j'étais assez surpris de la faible mobilisation politique. On est sur une actualité politique qui est très forte, parce qu'il y a ce meurtre affreux. Ouais. Le but du politique, c'est de se saisir de ces faits-là pour que ça ne recommence pas, donc c'est-à-dire instrumentaliser au nom du bien commun, c'est-à-dire le transformer politiquement pour que ça ne recommence pas. Là, vous avez toute cette séquence dans la même période, comment dire, vous étiez assez tout... En fait, vous étiez seul à vous saisir de ce sujet-là.
Pas du tout, puisque nous sommes 4 députés de la coalition nationale sur 5 dans l'Aisne. Nous avons été 4 à rédiger cet article 40 et cette interpellation au procureur de la République. C'est un sujet qui a été repris au niveau municipal aussi, et puis relayé aussi au niveau national par certains élus. C'est vrai que malheureusement, le contexte est riche et dense de choses abominables ces derniers temps, et peut-être qu'au moment de l'affaire Liana, mais tout est lié en réalité, puisque on a interpellé aussi... Parce que l'objectif qu'on avait, c'était évidemment la défense de nos enfants. Et aujourd'hui, ce qui se passe dans notre pays est absolument détestable de ce point de vue-là. Aujourd'hui, nos enfants sont justement abandonnés à la fois à des images, des propos, etc., qui sont parfois choquants, blessants, qui chamboulent leur construction aussi personnelle, notamment quand, même à l'école, ils entendent ce genre de messages. Mais nos enfants sont confrontés aussi à des drames. Et quand on revoit justement le contexte global de ces 70 000 plaintes, de ces 800 000 cas justement chaque année de violence sur les enfants, etc., il faut justement, on ne peut pas nous dire le contraire, mettre la priorité, et c'est justement le message aussi qu'on a envoyé depuis la semaine dernière, sur la protection évidemment de nos enfants, notamment dans le cadre judiciaire et dans le cadre politique, parce qu'il y a une responsabilité flagrante du politique sur ce sujet-là.
Bon. J'ai quand même le sentiment, le problème, c'est que, vous l'avez dit, il y a l'actualité qui, à chaque fois, déborde de toutes parts, parce que rien ne va, et donc... Une priorité devient une autre priorité en fonction des faits et des actus.
On va tellement toujours plus loin, et c'est tellement toujours constant qu'en effet, une activité en chasse une autre, et une priorité...
C'est ça qui est effrayant et déprimant.
Autant prioritaire qu'une autre, et donc c'est en effet ça qui est complètement déprimant. Et moi, je comprends tout à fait le désarroi et surtout la colère aujourd'hui du peuple français, notamment au lendemain de l'affaire Liana. Et moi je partage cette colère, et quand j'entends moi en circonscription encore là ces derniers jours je n'ai plus confiance en la justice de mon pays, mais en fait même moi en tant que député je partage ce constat là et en fait aujourd'hui c'est évidemment un électrochoc politique, judiciaire, etc. qu'il faut amorcer. Et en effet, la première prérogative de l'État, c'est la sécurité et la justice. C'est d'ailleurs ce qui constitue dans sa nature l'État. C'est pour ça que les États se constituent. Mais aujourd'hui, il y a une défiance et une confiance qui s'est rompue de ce point de vue-là, et qui est due justement à la fois à une responsabilité de l'institution judiciaire qui aujourd'hui a inversé les priorités. C'est-à-dire qu'on va arriver, ça c'est des cas que je rencontre souvent chez moi, chez les agriculteurs arriver l'OFB flingué à la ceinture, parce qu'un agriculteur a coupé 10 mètres de haie, il se retrouve au pénal dans un délai d'instruction en plus très court, et lui n'a pas le choix que d'y comparaître. Il y a une offensive politique, Marion Maréchal par exemple en fait l'objet, où elle a été condamnée en première instance pour avoir dit que l'IUSH, l'école des frères musulmans à Château-Chinon, était une école islamiste, qui a été en plus de ça, sur ce fondement-là, dissous par le, pour une fois qu'il y a un acte en plus politique qui soit fait là-dessus, qui a été dissous par le ministère de l'Intérieur, eh bien, malgré tout cela, elle s'est faite condamner pour diffamation en première instance parce qu'elle a dit que cette école était une école islamiste. Elle a été auditionnée 1h30 la semaine dernière parce que, justement, elle regrettait dans un tweet que celui qui avait reçu le prix d'interprétation féminine à Cannes était en fait un transsexuel homme, pour diffamation. Et donc là, on voit vraiment le deux poids deux mesures. C'est les Français aussi qui prennent leur voiture au quotidien pour aller bosser, qui se font aligner, et eux, ils n'ont pas le droit de broncher. Mais par contre, on voit dans l'affaire Liana que quelqu'un qui est accusé de viol, qui a eu des plaintes à son encontre, qui a en plus de ça est un dossier étayé avec des témoignages, etc., ne comparait même pas devant les policiers pour s'en expliquer. Donc là, il y a un vrai sujet, une vraie responsabilité.
Et on rejoint vos préoccupations rurales, puisque en fait, la procureure qui n'avait pas convoqué...
Par contre, elle avait convoqué 40 agriculteurs.
Exactement, qui avaient manifesté.
Ouais, exactement, qui avaient, eux, manifesté pour défendre leur gagne-pain. Quoi. Donc c'est ça qui est assez dramatique. Mais tout cela est aussi la conséquence, en effet, à la fois d'une vision politique qui, depuis 50 ans, fait la prime à l'excuse... la prime à la réinsertion permanente, et puis aussi de manque d'action politique, parce qu'on le voit bien, moi qui suis à la commission des finances, je suis bien placé pour le voir, sur 1000 euros d'argent public aujourd'hui, il n'y a que 5 euros qui sont alloués à la justice. Là où on va avoir 17 euros, par exemple, pour l'environnement, donc c'est-à-dire pour des politiques d'écologie punitive qui entravent nos entreprises, qui entravent nos agriculteurs, etc. On va avoir 560 euros pour les prestations sociales, mais que 5 euros pour la justice. Donc en effet, c'est de ce point de vue-là un changement évidemment à opérer, à la fois de principe, de vision de la justice, notamment aussi de responsabilité des juges, parce que même si Absolument. La justice est un organe indépendant, mais elle ne doit pas être un organe irresponsable, et donc les juges doivent aussi, à partir du moment où ils ont rendu une mauvaise décision, être davantage responsables.
Oui, comme un chirurgien qui rate une opération.
Par exemple. Et donc ça, c'est l'aspect plutôt de principe. Et puis dans l'aspect pratique, évidemment, il y a aussi toute une série de mesures qu'il faut mettre en place pour aujourd'hui opérer une politique de tolérance zéro à l'égard notamment de ces sujets liés à l'enfance.
Alors, avant de donner la parole à Arthur, permettez-moi d'être l'avocat du diable, mais beaucoup de magistrats se plaignent aussi, et pourquoi pas, ça peut être vrai, que la pénurie absolue de places de prison les empêche de rendre la justice de manière normale, si je puis dire. Puisqu'en fait, il n'y a plus de place, et qu'Emmanuel Macron, qui avait annoncé 35 000 places de prison nouvelles en 2017...
On n'en a pas vu la couleur, ouais, bien sûr.
C'est ça, oui.
Non, bien sûr, il y a ce sujet très pratique, j'allais dire même logistique, de la réserve de places en prison. C'est pour ça qu'il faut évidemment construire de nouvelles prisons et augmenter le nombre de places dans nos prisons. Mais il faut-il aussi avoir la volonté d'envoyer... les gens en prison. Aujourd'hui, justement, comme je vous le disais, dans cette culture de l'excuse, de la réinsertion, etc., on a beaucoup de juges d'application des peines, et on l'a vu d'ailleurs dans des affaires dramatiques comme l'affaire Lola ou l'affaire Philippine, où en effet, des gens qui avaient déjà été condamnés étaient sortis de prison alors qu'ils n'avaient pas été jusqu'au bout de leur peine, et ils ont pu recommencer. Donc en fait, c'est aussi là-dessus qu'il faut revoir et faire en sorte que les peines soient réellement appliquées, et que les peines, notamment sur ces affaires de pédocriminalité, soient substantiellement augmentées. Nous, évidemment, et c'est ce que Marion Maréchal disait, on préconise que quelqu'un qui s'est rendu coupable de ce genre de crime meure en prison, en fait. C'est que ce soit une perpétuité réelle. Ouais. Aujourd'hui, le plafond, c'est 20 ans. Donc je pense qu'il y a quand même là-dessus un sujet de progression notoire à amorcer.
Ouais. Et alors, en matière de justice, pardon encore Arthur, mais ça arrive, mais il y a peut-être également aussi, puisqu'il y a un tel manque de moyens, peut-être serait-il nécessaire d'inciter les juges, et même de réorganiser la magistrature, de fait, pour faire en sorte qu'ils s'intéressent à des sujets prioritaires, pour le coup des vraies priorités, et pas, par exemple, aux haies des agriculteurs dont vous parliez,
Bien sûr.
Ou aux agriculteurs qui manifestent, ou aux délinquants de la pensée, simplement parce qu'ils ont dit, comme Marion Maréchal, mais aussi des gens beaucoup plus modestes
comme
que Marion
Maréchal. Comme beaucoup de lanceurs d'alerte, en réalité, je parlais de Marion parce que c'est un cas que je connais particulièrement. Ouais. Et d'ailleurs, on avait interpellé sur le sujet des lanceurs d'alerte, mais que ce soit des journalistes, des lanceurs d'alerte qui, eux, passent leur temps dans les tribunaux parce qu'il y a cette, police politique, qui, cette ambiance de...
Et une inflation de la plainte aussi, nous on le voit.
Ambiance qui fait que, voilà, on est dans la politique judiciaire en permanence, et qu'en effet, quand il y a aujourd'hui, le délit d'opinion dépasse certains autres délits, et en réalité, c'est une inversion totale des priorités et des moyens aussi qui sont accordés. Beaucoup de lanceurs d'alerte passent finalement leur temps dans les tribunaux, là où ceux qui se sont rendus coupables de méfaits beaucoup plus graves, eux, ne voient jamais l'uniforme d'un policier, quoi.
Arthur de Vatrigan.
Votre remarque, cher Pierre-Alexandre, que je voulais faire également. Non, mais vous avez raison. En effet, comme on dit souvent, il y a l'État nounou, les Français sont devenus irresponsables, mais c'est pareil au niveau de la justice. C'est-à-dire que les problèmes ne se règlent aujourd'hui que devant des tribunaux. Il y a une ultra-judiciarisation, une inflation. Alors évidemment qu'il y a une volonté politique, idéologique, de tout l'échiquier politique qui ne se situe pas à droite, de vouloir créer de plus en plus de lois pour en fait légaliser la censure. C'est encore la loi Berger qui va être en discussion. Mais on voit aussi de l'autre côté une envie de judiciariser tout, comme s'il y avait une gauchisation des esprits jusque dans les méthodes. Là, j'entends aujourd'hui des gens de droite parler de droitophobie, de ploucouphobie, reprendre toute la sémantique idéologique de gauche, et aller attaquer des gens parce que ça me plaît pas, parce que c'est de la haine, parce que c'est de la diffamation, parce que, je veux dire, c'est au bout d'un moment, c'est évidemment qu'il y a un manque de moyens de la justice, qui est évident. Évidemment qu'il y a une représentation de magistrats ultra politisés qui sont à vomir. Et je ne parle pas que du syndicat de la magistrature. Et évidemment que la majorité des magistrats essayent de faire leur boulot tant bien que mal avec le peu de moyens alloués. Ouais, mais à partir du moment où on est dans une inflation de la judiciarisation, je ne vois pas comment on va pouvoir, même en augmentant tous les ans les budgets, je ne vois pas comment on va pouvoir régler le problème. C'est impossible. Sur l'affaire Leyana, il y a... En effet, le coup de projecteur qui est mis sur les magistrats, en tout cas la magistrate, attendons de voir l'enquête, parce que l'étage en dessous, c'est pas joli joli, et l'étage en dessous au niveau des parents, et je vous raconterai des anecdotes dessus, c'est pas top non plus, quoi. Donc on risque d'avoir quand même de montrer une responsabilité partagée. Voilà, je voulais dire, c'était pas uniquement une idéologisation, une judiciarisation qui se passe que à gauche, il y a une responsabilité partagée, et j'ai l'impression que les Français savent plus vraiment où ils habitent, et donc ils délèguent tout ce qu'ils ne souhaitent pas trancher ou tous les problèmes qu'on pourrait résoudre ailleurs, le font dans les tribunaux ou dans l'espace médiatique.
Bon, et bien sur ces conclusions un peu tristes, mais néanmoins vraies, on va peut-être continuer avec vous, donc Eddy Casterman, député de l'Aisne, Identité Liberté, donc apparenté RN, parce que vous ne chassez pas que les spectacles pédophiles, vous avez aussi plein d'activités, comme on l'a vu. On vient de parler d'agriculture, qui est une de vos préoccupations, mais aussi la ruralité au sens large. Et donc, avant d'aborder ce dernier sujet, on aime bien, dans cette émission, faire des portraits de nos invités. Donc, on aurait voulu faire un peu mieux connaissance avec vous. Alors, vous êtes né à Lille en juillet 1996.
C'est ça.
Est-ce que vous pouvez nous parler un peu, justement, de votre enfance, votre milieu, ce qui fait qu'on devient, à 29 ans, député apparenté RN ? Comment est-ce que c'est prédestiné ? Est-ce que c'est dans les rails des tout petits ? J'ai connu des gens qui prévoyaient l'entrée de leur nourrisson à Polytechnique, pour de vrai. Oui. Donc, est-ce que c'était...
Je pense pas que c'était le cas de mes parents, et je sais pas s'il y avait une prédestination. En tout cas, j'ai toujours été très concerné et très attiré par la chose publique et par l'engagement au service des autres et du bien commun aussi, de l'intérêt général.
Vous êtes flamand, hein, c'est ça ?
Je suis flamand, ouais.
Ça compte dans votre parcours, dans votre identité, dans votre...
Oh bah c'est une identité qui compte, évidemment, et qui est déterminante au niveau familial, et donc évidemment de ce point de vue-là. Mais je n'avais pas des parents qui étaient particulièrement investis dans le monde politique, ni côté partisan, ni dans l'engagement local, par exemple. Mais par contre, évidemment, on a toujours parlé politique chez moi, et donc je me suis forgé aussi un esprit critique, un esprit politique grâce à cela. Mais voilà, donc moi, oui, en effet, comme vous le disiez, j'ai été élu à 26 ans, j'en ai aujourd'hui 29. Ouais. Avant d'être un député, je suis surtout un homme marié et un père de famille depuis 3 mois et demi. Ça, c'est ça ma plus grande...
Félicitations.
Merci, ouais, ouais.
Bon courage.
Merci aussi, ouais, ouais, c'est bon. Je sais maintenant ce que ça veut dire quand on fait bon courage. Exactement. Voilà, donc oui, en effet, mais moi je viens d'une famille, comme je vous le disais, mes parents n'étaient pas engagés en politique, mais ils étaient aussi très engagés dans leur vie personnelle et dans leur métier, puisque moi je viens d'une famille, comme vous dites, de flamands, et les flamands sont depuis longtemps des commerçants. Et en effet, mes parents sont aussi des commerçants, et donc j'ai toujours vu très, très engagés, très travailleurs.
Donc des urbains, pas des ruraux.
Non, justement, nous on habite un petit, enfin mes parents habitent Encore aujourd'hui, un petit village de 650 habitants qui n'est pas très loin de Lille, mais qui est quand même dans la ruralité. Et donc, c'est ce qui, moi aussi, a forgé mon identité de rural, que de justement évoluer et grandir dans ce cadre. Mais évidemment, comme beaucoup de Français, ils prennent leur voiture le matin pour aller travailler en ville et exercer leur métier. Et donc j'ai grandi là-bas. J'ai même été maire adjoint en 2020, puisque tout naturellement, je me suis engagé dans ma commune natale. Je me suis engagé dans la vie très pratique aussi de la commune. J'avais pas l'âge auparavant de pouvoir siéger au conseil municipal, mais en 2020, je me suis présenté sur la liste. J'ai été élu maire adjoint. J'ai exercé cette belle responsabilité pendant 4 ans. Et d'ailleurs, je considérais que c'était un passage essentiel que de s'engager justement dans la vie locale de manière aussi pratique et aussi dans un esprit d'exemplarité et d'efficacité aussi dans la manière dont on défend nos idées, parce que c'est aussi par là, par les petites choses, et moi je crois beaucoup justement à ce principe de subsidiarité, qu'on fait justement avancer nos idées aussi, et c'est ce que j'ai dit et essayé de convaincre beaucoup de mes copains en disant c'est bien de parler de métapolitique, c'est bien de parler de politique aux grands rendez-vous nationaux, mais il faut aussi à un moment mettre les mains dans le cambouis, relever les manches et puis savoir s'engager, et donc, que ce soit dans une association, etc. Et moi, je l'ai fait au sein du conseil municipal de ma commune. Et tout comme en parallèle, voilà, j'ai eu un engagement aussi militant dès le plus jeune âge.
Alors, vous n'étiez pas au RN. En fait, vous êtes toujours de droite, mais ouais, vous avez
exactement.
Un peu circulé.
Alors,
dans...
J'ai toujours... alors, ma famille a toujours été de droite traditionnelle, plutôt modèle RPR ouais. traditionnel. Voilà, exactement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la plupart d'entre eux se retrouvent aussi dans ce que moi je porte aujourd'hui, c'est-à-dire la coalition nationale et cette alliance entre le Rassemblement national, l'UDR et Identité Liberté.
Donc libéral-conservateur.
Plutôt libéral-conservateur, c'est ça. La France du mérite, la France du travail, la France qui se lève tôt. Et qui en a marre aussi à la fois de se faire ponctionner et puis qui en a marre de se faire racketter, agresser et de subir l'immigration aussi au quotidien. Et donc voilà, c'est cette droite-là dans laquelle j'ai évolué. Et donc, en effet, je me suis retrouvé militant LR à mon plus jeune âge, comme quoi ça peut attirer encore certains jeunes.
Donc ça, c'était quoi?
Pas
longtemps. C'était 2005, 2000...
Ah non, pas du 2010, tout. 2005, j'étais encore loin
ans,
de là.
Oui,
j'ai passé mon bac en 2015. Et donc, j'ai d'abord fait 2 ans de classe préparatoire littéraire à Lille, une hippocagne, une cagne. Et je suis arrivé à Paris en 2017-2018. Et c'est là que je me suis... engagé plus dans un aspect militant. Mais dès le départ, même chez les Républicains, je défendais cette idée d'union des droites. Et donc, j'avais aussi co-créé un collectif à l'époque qui s'appelait Racine d'avenir. Et on défendait justement cette idée de manière transversale, l'union des droites. Républicains, d'autres qui étaient au Rassemblement national, d'autres qui étaient chez Debout la France, dans une optique de rassemblement commun prioriser ce qui nous tient le plus à cœur, c'est-à-dire la sauvegarde de notre pays. Quoi.
Alors, Racine d'avenir, je crois qu'il y avait aussi une petite teinte entrepreneuriale, non? C'était aussi des jeunes actifs ou des jeunes...
Il y en avait, mais c'était vraiment jeunes engagés de droite, militants, et de manière transversale sur les différents partis de droite.
Alors, et cette expérience de l'union des droites, à la base, vous avez senti que ça marchait bien, et puis après, peut-être, avez-vous un peu tapé dans le plafond de verre des états-majors
parisiens. Ça marchait bien, chez LR, il fallait l'assumer, parce que beaucoup des jeunes et beaucoup des militants, etc., partageaient cette idée de l'union des droites, et c'est d'autant plus le cas aujourd'hui, où il y a quasiment, je crois, 80% des sympathisants LR qui appellent eux aussi à cette union des droites. Mais par contre, on se confrontait évidemment au chapeau à plumes du parti, qui eux ne voyaient pas du tout ça d'un bon œil, ce qui m'a valu d'ailleurs, après quelques années, de l'exclusion des Républicains, qui ne supportaient pas cette idée d'union des droites, parce que notamment en 2022, moi je n'avais pas l'ambition, enfin en tout cas la volonté de soutenir Valérie Pécresse, qui pour moi n'était pas la figure... la figure de la droite qui permettrait d'assumer nos idées,
France,
ouais. Sauver notre pays. Voilà, et c'est pour ça aussi que de fil en aiguille, j'ai rejoint Marion Maréchal, puisque c'est une figure dans la vie politique qui s'est jamais détournée justement de cette volonté. d'unir les différentes sensibilités de droite pour permettre d'y arriver, de gagner. Et d'ailleurs, à l'instar, et sur le modèle de notre allié au niveau européen, Giorgia Meloni, puisque Marion Maréchal siège au niveau du Parlement européen dans le groupe des conservateurs et réformistes européens, qui est en fait le groupe de Giorgia Meloni, qui est le groupe d'autres gouvernements présents en Europe, du camp conservateur. Et en fait, aussi, c'est un modèle aussi politique et de réussite, à la fois d'accession au pouvoir et d'exercice du pouvoir, que Giorgia Meloni aussi nous offre, avec plein de partis qui composent aujourd'hui une coalition avec des sensibilités différentes, mais qui font que son projet politique peut encore aujourd'hui exister et porter ses fruits en Italie.
Alors, comment est-ce que vous avez, si ce n'est pas indiscret, hein, cheminé comme ça de... Donc, l'exclusion de LR, ça, c'est un signal, évidemment. Mais ensuite, pour arriver avec Marion Maréchal, comment vous avez rencontré les réseaux? Est-ce que vous les aviez déjà?
Alors, déjà un peu à l'époque, avant. Et puis, moi, je me suis engagé aussi en 2022 dans la campagne d'Éric Zemmour. Et donc, j'ai aussi eu connaissance de tous ces... De plein de personnalités.
Mais dans le canal Marion Maréchal.
Dans la campagne en règle générale, et après, en effet, tout naturellement, toujours dans cette optique d'alliance et d'union, moi, je me suis senti beaucoup plus proche de Marion, qui, elle, a toujours justement appelé à cette union sans la refuser. Et c'est d'ailleurs ce qui lui a valu elle-même aussi son exclusion de Reconquête. Et donc c'est à la suite de ça que nous avons créé le Parti Identité et Liberté et que nous sommes aujourd'hui une des trois composantes de la coalition nationale avec l'UDR et avec le parti pivot qu'est le Rassemblement National.
Alors vous avez été élu donc député en 2024 et donc avec l'investiture RN pour le coup. Et si j'ai bien lu, vous êtes drôlement bien élu, puisque vous avez 57,6% dès le premier tour. C'est quand même
exactement. J'ai eu.
Donc c'était votre première vraie campagne, d'ailleurs?
Non, c'était pas ma première vraie campagne. Alors, je m'étais présenté au municipal, donc j'avais pu faire une campagne au niveau de ma petite commune. Je m'étais présenté aux législatives en 2022 aussi sur un territoire très difficile. Et donc là, c'était en effet ma deuxième campagne législative. Et les électeurs m'ont attribué en effet leur confiance très massivement dès le premier tour, et je les en remercie, pour mettre fin à en plus 50 ans de socialisme sur le territoire. Donc c'était quand même une belle satisfaction.
Et qu'est-ce qui change entre une campagne municipale et une législative?
Beaucoup de choses, oui. Alors à la fois sur l'aspect pratique, sur l'aspect logistique, c'est évidemment pas du tout les mêmes campagnes. Après, moi, j'ai pas vécu une campagne municipale très politique, dans le sens où j'étais élu dans un petit village et qui était mon village natal. Donc c'était une campagne de relations. C'est ça.
Une mise en
nécessite moins souvent l'engagement rude que peut représenter une campagne législative. Tel que c'était le cas sur les deux que j'ai pu connaître.
En fait, c'est quoi la différence entre 2022 où vous échouez et 2024 où vous réussissez? Parce que c'est la même circonscription?
Non, c'est pas la même circonscription. La première circonscription, c'est la circonscription de la commune dans laquelle j'étais élu. Et la seconde est une circonscription qui est géographiquement pas très loin, mais qui n'est pas la même, et qui est une circonscription... dans laquelle le camp national faisait historiquement de très bons scores, mais on n'avait jamais réussi à transformer l'essai au niveau législatif. Et en fait, c'est aussi la grande vague des élections européennes qui a précédé les élections législatives et la dissolution en 2024, qui a permis aussi de briser certaines digues et les dernières digues qui demeuraient, pour que justement on puisse basculer. Et la bascule s'est faite d'ailleurs dès le premier tour et assez massivement. Et donc, de ce point de vue-là, c'était quand même une belle réussite et une belle victoire.
Alors, racontez-nous juste le désespoir de votre adversaire de gauche. Donc, la manière dont il a salué démocratiquement et républicainement votre victoire.
Alors, je n'ai pas eu de salutations très cordiales et républicaines. Ça m'est arrivé de le croiser, de le recroiser de temps en temps. Il l'a un peu mauvaise et d'ailleurs, il le fait entendre sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas sûr que ce soit quelque chose qui soit particulièrement apprécié. En tout cas, c'est pour moi une satisfaction d'avoir permis justement à ce territoire d'avoir un élu du camp national qui le représente à l'Assemblée nationale, puisque moi, le fondement de mon engagement, c'est de faire aussi porter la voix de cette ruralité à l'Assemblée, puisque c'est aujourd'hui une priorité aussi à avoir, de défendre ces territoires ruraux qui sont les territoires qui pourtant représentent l'identité profonde de la France, mais qui ont eu subi un abandon au travers de ces dernières décennies, puisque la priorité a été accordée ou aux grandes métropoles dans ce phénomène de métropolitanisation et d'internationalisation massive, et donc on a mis beaucoup d'investissements dans les villes. On a déversé aussi des milliards d'euros dans les banlieues pour acheter la paix sociale, mais les grands oubliés sont les ruraux, puisque c'est ceux qui travaillent docilement, qui ne manifestent pas et qui ne cassent pas tout. Et malheureusement, en effet, c'est eux qui pâtissent le plus des mauvaises décisions qui ont été prises ces dernières années, parce qu'ils sont ignorés. Et donc moi, j'essaye en tout cas modestement, par la mission qui m'a été donnée, de me faire le porte-voix de cette ruralité à l'Assemblée, parce que je dis souvent aussi, quand on peut parfois, et c'est le jeu d'un député qui doit se démultiplier entre son territoire et Paris, et quand on peut me reprocher de dire « Ah ben on ne vous voit pas suffisamment souvent, etc. » Déjà j'ai un territoire de 181 communes à couvrir, donc c'est quand même pas évident, d'une part, et d'autre part, il y a aussi beaucoup de temps que je passe à Paris, parce que en effet la loi ça se vote à Paris, et comme je dis souvent, moi je suis élu dans un pays qui s'appelle la Thiérache et puis une partie du Vermandois aussi, qui sont deux vieux pays de France. Je leur dis voilà, quand je vous parle ici de Paris, de l'Assemblée nationale, vous savez tout ce que c'est, mais si vous n'avez pas un représentant à Paris, à l'Assemblée nationale, qui parle de la Thiérache et du Vermandois, personne ne s'en souciera. Donc ma mission c'est celle-là, c'est de vous représenter à l'Assemblée nationale, qui est la première des prérogatives du député, qui est un élu de territoire mais aussi un élu national et qui porte aussi une voix politique.
Alors avant justement de creuser cette question de la ruralité, une question d'Arthur de Vatrigan.
Oui, comme on va rester sur les questions nationales, donc là a priori, quand la fête de la musique sera terminée, on partira en vacances paisiblement parce que la guerre en Iran est finie, que Poutine a bombardé la Lorde et les grottes de Kiev pour défendre la chrétienté, évidemment, et parce qu'il y avait forcément 2-3 nazis qui étaient planqués dedans, comme chacun sait. Mais on va, après 2-3 semaines, voire 4 pour certains qui ont de la chance, et 5 comme Pierre-Alexandre Bouclet, vacances avec les doigts de pied en éventail sur la plage, on va revenir en septembre, et là va démarrer la campagne présidentielle. Vous, en tant que donc élu national, qui forcément allez faire campagne pour le candidat ou la candidat du camp national, du Rassemblement national, pardon, Marine Le Pen ou Jordan Bardella, quel sujet de campagne, et je le mets au singulier, souhaiteriez-vous qu'on débatte, ou que les Français débattent pendant les quelques mois de campagne qui vont nous emmener jusqu'au mois de mai, la présidentielle?
Quelle
est pour vous la priorité?
Le sujet central, c'est est-ce que la France va demeurer la France dans ce qu'elle a de son identité, de sa civilisation? Donc c'est évidemment l'enjeu lié à l'immigration qui doit être l'enjeu central aussi de cette campagne, puisque c'est l'enjeu fondamental qui détermine ce qu'on est. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aborder d'autres sujets qui sont tout à fait aussi importants pour les Français dans leur vie quotidienne. Et notamment, je pense, ce grand sujet, ce grand chantier qui doit être opéré de la simplification et de la pour sortir de ce carcan normatif, fiscal, qui aujourd'hui étouffe notre pays, qui restreint les libertés d'entreprise, qui freine, si ce n'est même étouffe, notre capacité industrielle, qui détruit notre agriculture. Et donc, en effet, d'un point de vue beaucoup plus pratique, c'est aussi cela qu'il faut, le chantier qu'il faut mener.
Vous avez votre réponse?
Bah non, mais résultat, il manque
un petit temps.
Bah non. Mais non, mais c'est là où on voit. C'est
il
là
qui est. Pas content,
bah non, je suis très content.
Ah bon.
Je suis toujours très content, moi. Surtout quand je suis avec vous.
Et d'ailleurs, un des auditeurs de Radio Courtoisie, oui, nous dit: bonsoir messieurs, vous êtes mes super-héros.
Ah bah alors.
Il parle de vous, Arthur, entre autres. Il me manque moins les autres.
Il a pas mis sa cape, mais.
Charles-Henri Deslois, Jean-Yves Le Gallou et Xavier Van Lierde, mais merci d'être nos porteurs d'espérance.
Mais c'est lui, il dit qu'on est super-héros, mais il aime aussi les autres. Non, il faut hiérarchiser, discriminer.
Oui, oui.
Il peut pas aimer tout le monde. On n'est pas des gens de gauche,
nous, on est les super-héros et les autres.
Sur les moyens,
ils sont juste des héros.
On redonne la parole à Eddy Casterman.
Non, mais justement, l'enfance. Comment mettre le sujet de l'enfance comme un sujet de campagne? Parce qu'on ne peut pas mettre, évidemment, malheureusement, le sujet de la pédophilie, de l'inceste et de la pédocriminalité ne va pas être un sujet de campagne. Mais on voit que dans les écoles, ça ne va pas. Dans la formation, ça ne va pas. Ils vont tous devenir dépressifs, suicidaires. L'enfance est un sujet, sans parler de la démographie.
Oui, c'est un sujet, mais donc, vous m'avez parlé d'un sujet prioritaire au singulier. La France est évidemment un sujet, on en a parlé tout à l'heure, et doit être une des priorités, et de manière transversale en réalité. Mmh. Pas qu'au travers de la justice, comme on en a parlé, mais aussi au travers de l'éducation, de la transmission, des savoirs. Et c'est toute une génération aussi à relever, celle qui existe aujourd'hui. Et c'est toute l'enfance à la fois actuelle, mais aussi l'enfance en devenir qu'il faut aussi traiter. Parce qu'on a un vrai sujet aujourd'hui, et qui doit être aussi une priorité, et qui est relative au premier sujet que j'évoquais sur l'identité, etc., qui est la démographie. Et en fait... À quoi ça sert de mettre en place des politiques, des projets, d'envisager des projets, etc., de vouloir transmettre une identité si on n'a personne à qui la transmettre. Et donc, en effet, c'est le sujet de la démographie qui sera aussi un sujet central.
Est-ce que c'est pas le seul sujet, en fait, finalement, la démographie? Parce qu'il n'y a plus d'enfants, il n'y a plus de France.
Bah, l'immigration pour remplacer, ça marche pas non plus.
Est-ce que c'est pas le seul sujet, en fait, qui devrait être le sujet principal de la campagne?
Si, je pense qu'en effet, ça doit être un sujet pivot et un sujet fondamental, mais décliné au travers de différents sujets, comme on les a évoqués. Oui.
Moins d'immigrés, plus de Français. Pardon de résumer brutalement, mais bon.
Moi, c'est ce que je dis souvent, c'est plus de berceaux d'enfants et moins de bateaux de migrants.
Ah ben bah, voilà, donc on est d'accord, finalement.
on le note, hein.
Oui, c'est copyright, hein. Attention.
Alors, on va arriver quand même à votre actualité, qui fait en même temps partie du portrait, puisque ça fait vraiment partie de votre identité, c'est la chasse. Vous étiez en cette fin de semaine au salon Game Fair, donc comme je le disais en introduction, qui est le plus gros salon de la chasse en Europe. Vous avez accompagné là-bas Marion Maréchal et une délégation du groupe justement Identité Liberté. Et à cette occasion, on a entendu Marion Maréchal faire une jolie déclaration d'ailleurs, qui a dit donc, nous ne sommes pas tous des enfants de Gaza, nous sommes des descendants de chasseurs. J'ai trouvé ça excellent. Mais ça résumait tellement bien les enjeux et la situation, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment très bon. Et voilà, donc vous étiez avec elle. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre goût pour la chasse? Est-ce que ça vient justement de la ruralité, de la famille? Est-ce que vos parents étaient, enfin votre père ou vous, étaient chasseurs?
Bah, à la fois, oui, ça vient de mon attachement à la ruralité et de ma vie passée dans la ruralité et mon goût pour la nature, les grands espaces... le calme et la solitude parfois, et donc en effet, moi j'ai toujours été attiré par la chasse, et aussi dans son aspect traditionnel, pour toutes les valeurs que ça pouvait véhiculer. J'ai une culture familiale de la chasse historique, jusqu'à mon grand-père et certains de mes oncles chassaient, mais dans ma famille, cercle familial proche, j'ai pas été initié à la chasse. Mon père ne chassait pas, mais j'ai reçu quand j'étais tout jeune mon premier fusil de la part de mon grand-père, qui était un fusil Vernet Caron juxtaposé, que j'ai toujours d'ailleurs, qui est un fusil dont malheureusement je ne peux plus trop me servir, puisqu'il a l'âge fait qu'il est un peu usé, ou alors il faudrait que je le refasse, voilà. Mais c'est un peu moi-même qui ai pu me forger cette aspiration pour la chasse, cette culture, et cette aspiration pour la culture, de tous les éléments culturels qui tournent autour de la chasse. Mais là où justement ça se transmet généralement de génération en génération, moi j'ai fait l'effet inverse, c'est-à-dire que j'ai réinitié mon père à la chasse, et qui depuis est lui-même revenu, et qui est maintenant presque plus passionné et fondu de chasse que moi. Enfin, en tout cas, il y a plus le temps de chasser que moi, donc il y va plus régulièrement, mais en tout cas maintenant c'est une passion qu'on partage en famille, notamment aussi avec mon beau-frère, etc. Et donc voilà, moi c'est ça qui fait partie aussi maintenant d'une identité personnelle.
Et ça vous est revenu à quel âge?
Moi, j'ai toujours été attiré.
Mais je veux dire, l'acte de passer le permis de chasser, des choses comme ça.
C'est il y a quelques années, je ne saurais plus vous donner la date exacte, mais en fait, dès que j'ai pu le passer, j'ai eu la volonté de le faire. Il s'est passé un peu de temps parce que entre la pension, les études, etc., ça a toujours été un peu contraignant, mais il a bien fallu un moment où je le passe, et donc je l'ai passé, et donc maintenant ça fait quelques années que je suis chasseur, et donc voilà, à la fois au grand gibier, qui est une chasse que je pratique assez régulièrement, et notamment dans mon périmètre géographique, de l'Aisne et du sud du Nord, dans la Vénois et dans la Thiérache, où on a de beaux massifs forestiers, mais aussi au gibier de plaine, puisque j'ai quand même pas mal de plaine chez moi, et surtout le gibier d'eau, qui est un peu mon péché mignon au niveau de la chasse, en baie de Somme. Et là, c'est une chasse très familiale avec mon père, mon beau-frère, etc. Donc c'est une chasse à laquelle je suis très attaché, et qui est une belle chasse aussi, dans sa pratique, dans son éthique, dans son environnement, où on se retrouve au milieu de marais magnifiques qui sont entretenus et qui accueillent une faune et une flore extraordinaires, avec des chasses très spécifiques, comme la chasse à la bécassine, qui est une chasse un peu particulière et assez difficile. Donc voilà, c'est pour toutes ces raisons que je suis passionné, un fervent défenseur et soutien de la chasse, notamment à l'Assemblée, au travers de mon engagement politique.
Et vous avez des passions culturelles liées à la chasse, des lectures, ou une passion pour la peinture, ou est-ce que c'est vraiment la chasse en tant que activité de plein air, si je puis dire, qui vous intéresse.
Non, oui, j'ai aussi, il y a tout cet aspect culturel autour de l'achat. Je vous parlais tout à l'heure de la bonne table, des bons vivants, ouais. Dans la chanson des copains bourrés. Alors, c'est pas forcément l'idée à chaque fois.
Mais en qu'est-ce tout cas, qu'un bon chasseur et qu'est-ce qu'un mauvais chasseur?
Ah, bah, ça, c'est, c'est être ou ne pas être, telle est la question. C'est un peu c'est un côté un peu philosophique auquel on n'apportera pas de réponse ce soir. Mais en tout cas, la chasse, c'est évidemment avant tout un héritage, une identité, un savoir-vivre. Des traditions qui sont entretenues et qui voilà c'est tout ce côté-là qui nous parvient et donc il y a aussi tout un héritage culturel autour de la chasse et en effet il y a des œuvres qui peuvent aussi conforter et qui peuvent aussi inciter à aimer la chasse avec des références littéraires. Moi je me souviens d'un livre de chasse que j'avais pu feuilleter de Gaston Phébus qui s'appelle Livre de chasse. Avec des enluminures du Moyen-Âge et du XIVe siècle, me semble-t-il, qui sont extraordinaires, magnifiques, qui sont vraiment relatives au savoir-faire de l'époque, de ces magnifiques enluminures très, très belles, très bien réalisées, et qui mettent en lumière toutes les pratiques de chasse et tout ce savoir-faire hérité du plus profond des âges, puisque la chasse est inhérente à la nature de l'homme, en réalité, et depuis toujours, on a chassé. La chasse a été constitutive aussi de notre organisation étatique avec la féodalité. La chasse, ça a été aussi un grand acquis de la Révolution. Et d'ailleurs, c'est drôle de voir c'est la gauche aujourd'hui qui se fait l'héritière de la Révolution française et attaquer bien en tête la chasse, qui est pourtant justement un droit accordé, un acquis qui était un des acquis les plus revendiqués de la part des classes populaires à l'époque. Et d'ailleurs, aujourd'hui encore, et c'est un peu l'héritage justement de cela, la chasse est une pratique populaire. 80% des chasseurs sont plutôt issus de la classe moyenne, de la classe populaire. On a aujourd'hui entre 1 et 1,2 million de chasseurs actifs en France. Et ça participe d'une culture populaire. Et on voit, pour revenir à votre question, que aussi dans certaines œuvres, littéraires, Genevoix écrit sur la chasse, Vincenot, c'est des œuvres qui peuvent nous inspirer, bien évidemment. Mais aussi, dans ces derniers temps, le cinéma qui a repris aussi
oui,
des
Didier Bourdon. Ouais.
Alors ça, je faisais pas référence à ça, mais
Chasse gardée.
Des films,
il y a Chasse gardée. Mais
c'est vrai.
C'est pas. Alors ce
je ne l'ai pas vu, donc je peux pas vous en parler. Mais je parlais d'autres types de réalisations cinématographiques qui moi m'ont plutôt marqué, notamment les films de Vanier, de Nicolas Vanier, qui fait des réalisations esthétiquement très belles, L'école buissonnière.
C'est autre chose que Chasse gardée, on est d'accord.
Le dernier trappeur, ouais, en termes d'esthétique et de beauté de l'histoire, c'est pas forcément la même chose, je vous l'accorde.
Et transmission, dans l'école buissonnaire,
c'est transmission. Et en fait, voilà, là on voit aussi cet aspect transmission aussi de l'héritage à la chasse et de respect de la nature, de respect de l'environnement qui transpire au travers de ce film. Et chez un écrivain un peu plus contemporain par rapport à ceux que j'ai cités et qui, moi, m'a ébloui aussi par rapport à non pas l'acte de chasse en lui-même, mais la contemplation de la nature, c'est Sylvain Tesson.
Ma prochaine question le concernait, oui.
J'anticipe
la question de la Panthère des Neiges, par exemple. Est-ce que le photoreportage est une forme de chasse?
Ben, en fait, c'est dans le photoreportage comme à la chasse, en fait, c'est ce que dit très bien Tesson dans ce livre, et aussi dans le documentaire que je vous invite à regarder, La Panthère des Neiges, qui a été réalisé. C'est vraiment, en fait, l'homme replacé dans la nature. Et l'homme en tant que non plus participant à un brouhaha général permanent où il se croit le centre de tout, mais en fait, comme à la chasse, l'homme doit s'effacer, doit revenir justement à sa juste place dans la nature en tant qu'observateur et membre de la nature à part entière. Et en fait, c'est un peu cet instinct primaire qu'on a perdu d'observateur, de compréhension du langage de la nature qui revient et qui est exposé au travers de ce livre de Sylvain Tesson que moi je trouve absolument sublime.
D'accord. Donc on aura oui.
Mais j'ai une question justement sur la chasse parce que la chasse, c'est qu'en effet, c'est quelque chose qui appartient à la tradition, à la transmission. Donc généralement, les gens plutôt de droite étaient plutôt pour. Et j'ai vu une évolution en tant que journaliste quand on traite ces sujets ces dernières années. La chasse est devenue un sujet très clivant. Et alors les anti-chasses sont d'une virulence et d'une violence assez incroyable. Mais surtout, j'ai vu que c'était transpartisan. C'est-à-dire que, voilà, est-ce que, donc, au sein de l'Assemblée, vous, dans les sujets de chasse, vous voyez ceux qui défendent et ceux qui l'attaquent, c'est également transpartisan, où ça reste encore bien circonscrit aux chapelles habituelles, ou au contraire ça a évolué? Et comment expliquer justement cette évolution du rapport à la chasse des Français, et dans un rapport qui est plutôt de plus en plus défiant, quoi, et de plus en plus même violent?
Alors, il y a plusieurs sujets. Le sujet politique, évidemment, ce sont toujours les mêmes qui s'opposent bien en tête à la chasse, c'est-à-dire les tenants d'une écologie punitive qui est en fait complètement déconnectée de la réalité et en fait du terrain, puisque moi, c'est ce que je leur dis toujours, venez mettre vos bottes pour une fois, sortir de vos quartiers parisiens, allez voir les forêts, les marais, les haies, etc., que les chasseurs entretiennent, souvent bénévolement d'ailleurs, et vous allez voir qu'en effet, la nature... c'est pas un chaos, elle doit être organisée, et l'homme a sa responsabilité d'ailleurs dans cette organisation-là. Et quand vous allez, par exemple, moi qui chasse au gibier d'eau, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans un marais qui est entretenu avec des platières, des bosquets, des plans d'eau, etc., vous avez une diversité de faune et de flore qui existe que parce que la chasse existe. Et en réalité, les chasseurs sont les premiers écologistes du réel, tout comme le sont, sur certains égards, les agriculteurs, comme le sont les pêcheurs sur les cours d'eau. Et donc, c'est cette France aussi populaire et des traditions que eux rejettent, et donc en fait c'est un tout qu'ils détestent de manière complètement
artificielle déjà,
complètement déconnecté en réalité, voilà, de ce qu'il en est réellement. Donc voilà, et j'oublie la deuxième partie de la question.
C'était justement au sein des Français, même dans votre circonscription. Alors c'est une circonscription qui est rurale, donc je pense qu'il y a moins d'opposants virulents. Mais est-ce que vous voyez aussi, vous, quand vous parlez de ces sujets-là, quand vous intervenez médiatiquement sur ces sujets-là, bon, maintenant avec les réseaux sociaux, où les commentaires remontent et plein de gens parlent, et moi ce que j'ai constaté en tant que journaliste, c'est que les anti-chasse n'étaient plus concentrés à gauche. C'est-à-dire que même dans la droite, il y avait de plus en plus d'anti-chasse. Donc comment expliquer cette évolution?
Alors moi, je pense que... alors déjà, il y a quand même une polarité, hein, droite-gauche, sur ceux qui apprécient la chasse et qui la pratiquent, qui sont plutôt à droite, et la gauche idéologue qui la rejette. Mais c'est vrai qu'il y a quand même, du fait justement de l'activisme de certaines minorités sur le sujet de la gauche depuis quelques années, il y a eu une augmentation de la défiance à l'égard de la chasse. Mmh. Je pense que cette défiance, pour ce qui dépasse justement cette minorité activiste, c'est plutôt une défiance qui est liée à une méconnaissance, en réalité, de la chasse et des sujets cinégétiques et de tout ce qui tourne autour, de son économie, aussi. Etc., mmh. Et de la perte, en effet, de repères. Et d'ailleurs, moi, je pense qu'il y a une belle solution là-dessus, et c'est une belle victoire politique aussi. Il faut le dire quand c'est le cas, qu'on a réussi à obtenir au travers d'un amendement que j'ai déposé à l'Assemblée nationale pour remettre par exemple la venaison, c'est-à-dire la viande de gibier dans l'assiette des Français, et notamment du gibier français, parce qu'aujourd'hui en France on a chaque année à peu près 1 million de sangliers qui sont prélevés, et heureusement, parce que leurs dégâts sont énormes et les populations explosent. On a à peu près 500 000 chevreuils, plus d'une centaine de milliers de cervidés, et pourtant seuls 10% de cette masse de gibier prélevé est valorisé dans un circuit de distribution officiel de venaison. Alors il y a beaucoup d'autoconsommation et tant mieux, les chasseurs mangent leur propre gibier, mais on a aussi tout un potentiel de développement, sachant qu'aujourd'hui une viande sur deux de gibier est importée de l'étranger, et pas de Belgique, de Suisse ou d'Italie, mais des États-Unis, d'Europe de l'Est ou même de Nouvelle-Zélande. Et donc, c'est totalement une ineptie. Et il n'y a jamais eu d'acte politique qui a remis un peu l'église au milieu du village, en disant que la venaison, qui pourtant a été une consommation historique pour les Français, d'une viande qui était locale, saine, pas chère, soit justement un beau levier pour répondre à l'enjeu de souveraineté alimentaire auquel on est confronté aujourd'hui. Et donc, j'ai déposé sur la loi d'urgence agricole récente un amendement à l'article 1er pour justement intégrer la valorisation, la structuration de la filière venaison dans le cadre des projets d'avenir agricole. Et en fait, j'ai remis aussi un peu les clés du camion aux mains de la ministre, qui doit maintenant acter la structuration de la filière, notamment au travers des conférences sur la souveraineté alimentaire, mais aller aussi plus loin pour lever le carcan normatif sanitaire qui existe aujourd'hui là-dessus, et qui est complètement délirant par rapport à d'autres pays qui nous avoisinent, qui sont limitrophes, notamment en Europe, et aussi organiser toute la structuration de la filière d'un point de vue logistique pour que, en effet, les débouchés, à la fois l'alimentation de la filière et ses débouchés, soient rendus beaucoup plus pratiques.
Alors justement, le maire de Salbris, Alexandre Avril, a mis en place une structure de découpe et de vente de venaison, les ateliers du Loup, si je ne m'abuse.
L'atelier du Loup, exactement, qu'on a rencontré là au Game Fair justement avec Marion Maréchal et Alexandre qui étaient là et qui nous accompagnaient. Oui, on a une certaine amitié aussi intellectuelle avec Alexandre Avril, qui lui, en effet, est très proactif sur le sujet. Il a mis à l'honneur la viande de gibier dans les cantines municipales. Il a créé, en tout cas, poussé à la création de l'atelier du Loup. Mais il y a d'autres aujourd'hui entreprises qui attendent justement de pouvoir continuer à se développer et d'autres qui sont en attente de pouvoir se créer justement sur le développement de la filière venaison qui existe. Pour justement être équitable dans les citations d'entreprises. Il y a Nemrod, par exemple, qui existe, qu'on a reçu que dans une audition que j'avais organisée dans le cadre du groupe d'études chasse à l'Assemblée nationale, et qui est venu nous parler justement des circuits courts, des circuits longs, etc., sur la distribution de la viande de gibier. J'ai dans mon département une belle entreprise que j'ai pu visiter aussi, qui s'appelle Villette Viande, qui est aussi très active sur le sujet. Et en fait, voilà, il y a des belles initiatives qui sont créées. Elles arrivent à se structurer dans des régions où elles peuvent s'approvisionner facilement, mais elles sont toujours exposées justement à ces contraintes sanitaires fortes. Donc, c'est que les grandes structures qui peuvent aujourd'hui, malheureusement, entretenir cette filière de venaison. Là où les bouchers, etc., ont beaucoup plus de mal parce qu'il leur faut une chambre froide spécifique, une chambre de découpe, découpée de telle manière, ce qui malheureusement en plus n'entretient pas les savoir-faire, la transmission des savoir-faire qui se perd aujourd'hui. Et donc on a besoin en effet d'un allègement de ces contraintes sanitaires, et puis comme je vous le disais aussi d'un développement de la structure logistique au niveau national, pour justement que de belles initiatives comme l'Atelier du Loup, comme Nemrod, comme Villette Viande puissent se développer, et qu'enfin, on puisse intégrer justement la consommation de gibier comme un élément à part entière de notre souveraineté alimentaire et remettre de la viande de gibier souveraine, c'est-à-dire française, dans l'assiette de nos enfants, qui aujourd'hui consomment une viande sur deux qui est importée elle aussi de l'étranger, donc ce qui est une ineptie.
Alors, avant de laisser, pardon, juste un instant, Richard, sauf si c'est directement lié.
C'est une question sur la chasse.
Eh ben, je fais juste une incise et ensuite on revient à cette question d'auditeur, mais sur la question de la viande de gibier, qui me semble importante, parce que, à la fois pour ceux qui défendent le bien-être animal, comme pour ceux qui ont une santé qui nécessite d'éviter les abus de viande,
oui.
En fait, la viande de gibier a vraiment le mérite de répondre à ces deux problèmes, c'est-à-dire que d'abord, elle est extrêmement saine, donc pour ceux qui ont par exemple des problèmes de cholestérol,
tout à fait, ouais.
La viande de gibier n'a pratiquement pas de cholestérol, donc c'est un excellent substitut au bœuf, au porc, etc. Et en outre, en matière de bien-être animal, c'est beaucoup mieux que l'industrie alimentaire, où des animaux sont élevés pour être tués et mangés dans des conditions souvent horribles, tandis que l'animal sauvage a une vie d'animal sauvage.
En France, on a quand même un bel élevage.
En France, oui.
Une qualité d'élevage agricole qu'on doit mettre en avant aussi. Et voilà, il faut voir aussi ça comme une complémentarité. Mais il est vrai
quand vous faites
que la viande du gibier est une...
de Nouvelle-Zélande ou du poulet du Brésil.
Moi, je préfère manger du sanglier du bout du jardin de l'agneau de Nouvelle-Zélande qui a été nourri à une herbe qui est traitée à l'atrazine, qui est en plus une substance interdite en France, congelée dans l'azote, importée sur des super tankers qui polluent l'équivalent de plusieurs millions de voitures, pour se retrouver dans l'assiette de nos gamins, ce qui est assez dégueulasse, pardonnez-moi l'expression. Et en réalité, et c'est là où je raccroche à la question que vous m'avez posée tout à l'heure, Arthur, sur le fait que les écolos devraient justement encourager ce modèle-là. Or, ils s'y opposent de manière tout à fait bête et méchante, de manière caricaturale, ne connaissant pas ce que c'est la chasse. Et en fait, ils s'opposent justement au développement aussi de ce genre de filière, alors même que c'est, on ne peut pas plus sain, à la fois pour l'environnement et aussi pour la santé publique. Donc, pour répondre à votre question que vous m'avez posée tout à l'heure, pour aussi que les Français puissent se connaître davantage et se réapproprier un peu tout ça, je pense que ça, c'est un bon moyen aussi de leur faire connaître ce que c'est que la chasse, et peut-être que par l'expérience, notamment gastronomique, ils pourront aussi se réapproprier ce modèle de la chasse et se rendre compte qu'en effet, quand on sort des caricatures des a priori très sensibles, puisque aujourd'hui on est quand même dans l'ère de la sensibilité absolue, de l'immédiateté, etc., quand on rationalise, même de la sensiblerie, ouais, on peut avoir une vision aussi rationnelle des choses. Et en effet, quand on a une vision rationnelle des choses, on ne peut qu'admettre que c'est quand même quelque chose de très positif pour nos territoires, pour la santé, pour l'économie, pour l'entretenir notre héritage culturel, etc. Et donc, pour toutes ces raisons, en effet, et pour l'écologie et pour l'environnement lui-même, et donc pour toutes ces raisons, la chasse doit être redorée et retrouver ses lettres de noblesse qu'elle mérite tant.
Alors, une dernière question, ensuite, on a explosé notre horaire, donc pardon de vous avoir retenu au-delà du...
Mais non, c'est moi qui...
Alors, Sylvain Tesson est contre la chasse, c'est honteux de supprimer la vie d'un animal saboté pour le plaisir.
Alors, Sylvain Tesson a donné de très beaux entretiens dans une revue qui s'appelle Jour de chasse, que j'aime beaucoup, et où il exprime effectivement le fait qu'il n'est pas chasseur, mais qu'il comprend l'univers de la chasse. Pour toutes les raisons que vient de dire Eddie Castor.
La réponse est là.
Pardon. Voilà. Non, mais c'est vrai.
On peut ne pas être chasseur, et pourtant on peut tout à fait reconnaître à la fois l'utilité et la beauté de ce qu'est la chasse, notamment dans l'appréhension qu'elle implique de la nature. Donc, ce n'est pas absolument pas contradictoire. Et en effet, quand on a le respect de l'animal, de l'animal dans son environnement, on ne peut que soutenir et apprécier la chasse.
Eh bien, écoutez, sur ces propos, Eddie Casterman, un grand merci d'être venu au micro de Radio Courtoisie. Et j'espère à bientôt pour évoquer d'autres sujets liés à vos compétences donc de député de l'Aisne. Merci encore. On se retrouve dans une minute pour notre rendez-vous de la réinformation.